Le réseau Cogeco vous présente Entre nous. Voici Sylvain Ménard.
En 2019, notre invité d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fait sa marque. Tout le monde l'a vu au moins une fois, si c'est pas 31 fois. De District 31, Michel Charrette, salut.
Salut Sylvain.
Grosse année 2019 pour Michel Charrette.
Très grosse année pour Michel Charrette, oui. Non seulement au plan artistique, travail, tout ça, mais au plan personnel aussi. Là, il s'est passé beaucoup de choses, mais j'en suis très fier. C'est une des bonnes années de ma vie, sincèrement, là. À tous les niveaux.
Ça, c'est bien, hein, arriver au 31 décembre et dire, celle-là, je la prends.
Je la prends, elle fait du bien, puis je suis content de tous les efforts que j'ai faits. Puis tout ça, je suis vraiment. Ça a été une belle année à tous les niveaux.
On va parler aux comédiens.
Oui.
OK. Celui qui fait Bruno.
Mm-hmm.
Celui qui entre dans nos maisons 4 soirs par semaine, puis qu'on regarde en reprise pour voir sa performance. Bruno, cette année, a vraiment été placé de l'avant dans District 31. À quoi t'attribues le succès de District 31 et aussi l'attachement qu'on a pu développer pour ton personnage?
Bien, pour commencer, le succès de District 31, je pense qu'à la base, c'est les textes. L'auteur, Luc Dionne, qui fait un travail colossal. C'est quelque chose qu'il connaît bien, qu'il maîtrise bien. C'est un sujet qu'il maîtrise bien. C'est pas évident d'écrire une quotidienne. Il écrit ça tout seul. Il fait 120 épisodes par année. Écoute, c'est titanesque le travail qu'il accomplit. Le succès, écoute, c'est difficile à dire, mais en même temps, je pense que la chimie entre les acteurs y est pour beaucoup aussi. Ça paraît à l'écran, je pense. Tout le monde était à sa place au bon moment. Les intrigues étaient intéressantes. L'heure de diffusion. Tu sais, les shows de police, là.
Ben, c'est ça. Des shows de police, c'est pas le premier qu'on voit.
Non, mais en même temps, tu sais, c'est ça qui marche le plus dans le monde, que ce soit aux États, en Argentine, name it. Ça reste toujours, on se souvient souvent de... Tu sais, moi, quand j'étais jeune, c'était Chips.
Oui.
Il y en a, là, c'est CSI. Là, après ça, c'est Mr. Rick Murder, je sais pas quoi. Puis, tu sais, là, il y a plein de choses.
Mais c'est pourtant pas un milieu très sympathique.
Non, absolument, absolument. Mais en même temps, c'est bon que tu m'amènes à ce point-là parce que nous autres, ce que les policiers nous disent, parce qu'on a effectivement beaucoup de commentaires des policiers, c'est qu'on valorise leur métier dans cette série-là, tu comprends? Souvent, les policiers sont divorcés, sont à la brosse, sont tout croche, ils donnent des étiquettes. Ça a été longtemps vu comme un métier négatif.
Oui.
Mais je veux dire, quand t'appelles la police parce que t'en as besoin, là, c'est pas parce que ça va bien, c'est parce que ça va mal.
Oui, c'est comme les pompiers.
Exactement.
Ça rentre en maison quand le feu est pris pendant qu'on sort.
Exactement, tu sais. Puis, alors, c'est ça. Puis de voir l'envers du décor aussi, comment ça se passe dans un poste de police, surtout au niveau des sergents enquêteurs, parce qu'on a vu beaucoup de shows de police qui étaient centrés sur les patrouilleurs, mais nous autres, c'est vraiment les sergents enquêteurs, tu sais. Tout ce qui se passe derrière, les interviews, les enquêtes, les interrogatoires, tout ça. Fait que je pense que tout ça a fait que la chimie a pogné. Puis les gens sont attachés au personnage. Pour ce qui est de Bruno, évidemment, il a vécu des drames assez atroces. Il a perdu sa femme puis ses deux enfants dans une explosion il y a peut-être une dizaine d'années. Puis là, en plus, il vient de frapper une petite fille à la fin de la troisième saison. Les gens ont de la sympathie pour lui. Mais je pense que ce qui fait le succès de Bruno, si je peux dire ainsi, c'est son ardeur au travail. Je pense que c'est pas un ripou, puis c'est un gars qui est là pour les bonnes raisons. Lui, la politique, puis tout ça, ça le fait chier.
Il est droit comme une barre.
Exactement. Fait qu'il veut faire son travail de police de la meilleure façon possible.
Il est droit comme une barre, même s'il file tout croche en dedans.
Exactement. C'est bien dit. C'est une belle image, ça.
Parce que Bruno, au début, c'est un personnage qui, en principe, c'est le patibulaire du groupe. C'est celui pour qui on développera pas un attachement.
Tout à fait, tout à fait. Il était parachuté au 31, tu sais.
Et subitement, il y a une tendance qui se développe. Les gens aiment Bruno. Puis Bruno, lui, ça devient le centre d'attraction dans un poste de police au moment où il n'était pas censé l'être.
Absolument, absolument. Puis ça, ben, c'est encore une fois la force de Luc. Puis, tu sais, aussi, ben, j'imagine que la façon dont on le joue, ça l'inspire aussi. Puis tout ça, tu sais. Puis, évidemment, on y met notre couleur aussi. Puis tu sais, moi, Bruno, oui, avec la déchirure qu'il vit, avec le drame qu'il vit, je voulais quand même y apporter une couleur un peu pince sans rire. Tu sais, c'est lui qui détend l'atmosphère souvent. C'est lui qui joue les taux. C'est lui tout ça. Parce qu'il a besoin de ça. Sinon, il va buster. Fait qu'il a besoin de faire ça pour juste relaxer puis
détendre l'atmosphère. Ne serait-ce que par ses réparties d'à peu près 3-4 mots.
Aussi,
mais ça se peut. Il va te désamorcer
Tout à fait, exactement.
Est-ce que tu savais au début de ton engagement dans District 31 que Bruno allait finir par prendre autant de place?
Pas du tout.
Pas
absolument
du tout.
Pas, parce que moi, quand je suis arrivé, je suis arrivé tard sur la première saison.
Ouais.
Ça faisait presque 30 épisodes qui étaient déjà diffusés quand Bruno est arrivé, spécifiquement pour l'enquête sur le petit Théo Gagnon, parce que le personnage de Bruno est spécialisé dans les enlèvements d'enfants puis tout ça. Puis après ça, ben évidemment, vu que là, Patrick Labbé perdait sa job comme lieutenant, c'est le personnage de Magali Lépine-Blondeau, Nadine, qui est devenue lieutenant. Oui. Donc, il y avait une place pour un nouveau sergent détective au 31. J'étais déjà dans place. Luc, il m'a fait rentrer là. Et là, la connivence qu'il y a eu avec Vincent Guillaume, puis Sébastien Guildhard, Hélène, tout ça, fait que la chimie était bonne. Puis j'ai développé une super belle complicité avec Vincent Guillaume, qui est devenu un grand chum maintenant dans ma vie. Puis alors, je pense qu'on fait un super team ensemble les deux, parce qu'on travaille les deux aux homicides. Là.
Mais on aura beau dire ce qu'on voudra, la vie de Michel Charette, quand on s'abonne, parce que c'est carrément un abonnement de comédien, District 31, ouais. Ça ressemble à quoi, la vie de Michel Charette, dans
ben,
ce temps-là?
Écoute, quand on commence District 31 fin juillet, on clenche ça jusqu'à fin mars. On dit ça juste pour faire une image qu'on rentre au monastère complètement. Là, parce que c'est 5 jours semaine, assez intense. On peut travailler de 10-12 heures par jour, plus le travail le soir pour apprendre les textes, plus les fins de semaine pour décortiquer nos affaires, annoter nos textes. Bon, ça, telle affaire, ça marche pas. Je vais dire ça, telle chose différemment, tout ça. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais... Puis comme tu as dit tantôt, Ordonne, c'est aussi autant de travail pour un succès qu'autant de travail pour un flop. Mais heureusement, on joue dans un immense succès. Donc, c'est d'autant plus encourageant de travailler là-dessus.
Qui aurait dit qu'une quotidienne, au moment où il y a les réseaux se multiplient, les plateformes se multiplient, la télé traditionnelle, juste après l'heure du souper, tout le monde regarde la même émission en même temps.
Ouais.
Et des gens de tous âges.
Personne n'aurait pu prédire ça, sincèrement. Puis même nous autres, au départ, on le savait.
C'est que c'était à contre-courant.
Exactement. Tu sais, je faisais 30 vies avant. Moi, je suis quand même ma 9e année de quotidienne. Puis 30 vies, tu sais, on tirait quand même 700, 800, 900 000 de cas d'écoute. C'était extraordinaire. Tu comprends? Puis c'était une nouvelle façon de faire de la télévision. Tu sais, on sortait des studios 3 Kodak. Là, on rentre dans l'action. 2 caméras, mais tournée cinéma, série, presque l'autre, tout ça. Donc, c'était une nouvelle approche par rapport à la quotidienne. Puis là, quand les premiers chiffres de District 31 ont commencé à sortir, on a fait, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Et évidemment, on s'est dit, OK, là, le train va ralentir à un moment donné, puis ça va descendre, et ça ne fait qu'augmenter. À chaque année, les codes d'écoute augmentent, tu comprends? Fait qu'on est comme un peu flabbergasté par tout ça, mais écoute, on le prend à bras ouverts.
Mais est-ce que vous y pensez quand vous entrez en studio?
Non, non, parce que la journée qu'on va commencer à y penser, ça va être la fin, je pense. Parce que là, enjoy the moment, on a du fun, on fait notre job le mieux possible, on essaie d'être le plus vrai possible. Puis tu sais, la charge de travail est tellement immense qu'on n'a pas le temps à s'arrêter à ces affaires-là. Nous autres, moi, ma job, c'est d'être préparé, d'arriver sur le plateau, de savoir mon texte, puis de rendre le personnage le plus crédible possible.
Être préparé, c'est la clé, hein? Parce que un comédien peut pas faire ça sans être préparé au préalable, parce que vous avez pas du temps à consacrer sur l'installation.
Non, impossible.
Studio, l'installation émotive, tout ça.
Tout à fait.
C'est votre problème.
Tout à fait. Ça nous appartient. Puis souvent, les épisodiques qui viennent, c'est des gens qu'on connaît. T'sais, c'est un petit milieu, fait qu'on se connaît tous.
Oui.
Fait que quand c'est des épisodiques qu'on connaît, moi, je prends la peine, ou Vincent, ou peu importe, de les appeler pour leur dire, écoute, arrive avec ton texte sud, arrive déjà avec une proposition de personnage, une lignée, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que tu vas voir que, tu sais, on a le temps, là. On a le temps de faire les affaires. On répète, on fait nos affaires, mais ça va relativement assez vite. Fait que si t'arrives puis que t'as pas d'idée de personnage puis tu te fies au réalisateur pour te donner une ligne, oui, il va t'en donner une, mais elle sera pas longue, puis il va falloir que tu t'arranges avec ça. Fait que arrive déjà avec quelque chose de préparé. Puis c'est souvent des personnages qui ont tellement de viande alentour de l'os que t'as du jus aussi pour travailler, ce qui est le fun, t'sais.
Parce que la cohésion doit aller des deux côtés. Vous avez des gens à la réalisation, il y a vous autres, les comédiens. Vous arrivez avec votre proposition, le réalisateur aussi arrive avec ses attentes. Faut que ça marche.
Faut qu'il y ait une symbiose qui s'installe. Mais en même temps, je travaille pour le réalisateur, mais le réalisateur travaille pour moi aussi. Dans le sens que si elle ou lui me dit quelque chose, puis je fais, moi, je suis pas d'accord avec ça, j'irai plus là, on s'estime pas longtemps. C'est soit ton idée ou la mienne, ben, on peut pas s'estimer pendant une demi-heure, on n'a pas le temps. Fait que souvent, on s'entend. Puis à cette heure, écoute, après 4 ans, on commence à connaître nos personnages pas mal. L'équipe de réalisation aussi.
Oui.
Donc, tu sais, on se laisse aller pas mal, puis on sait nos affaires, puis entre acteurs, on s'aide aussi des affaires.
Vous recevez vos textes combien de temps déjà à l'avance?
Je te dirais peut-être, en début d'année quand même, on reçoit peut-être un mois d'avance de textes.
Oui.
Mais là, quand l'année avance, là, évidemment, là, la charge de travail
le délai raccourci.
Mais on le sait, c'est 4 ans, ça fait 4 ans que c'est comme ça. T'sais. Mais voilà, mais tu sais, c'est un court laps de temps, mais pas juste pour nous autres. Moi, je pense à l'équipe technique, aux gens qui font les costumes, à Lucie Robitaille qui fait le casting, elle reçoit un texte, puis le gars ou la fille va tourner la semaine prochaine ou l'autre d'après, il faut qu'elle trouve cet acteur-là. Parce qu'il y en a déjà une bonne partie qui ont déjà fait partie de District 31.
Ah oui, quand on fait le dépouillement des scénarios là-dedans, il y en a des gens qui sont mis à contribution.
Ouais, ouais, tout à fait.
On parle beaucoup des comédiens, de la réalisation, mais je suis content que tu soulignes ça, Michel. Les gens des corps, des costumes.
C'est tout le monde. Tout le monde travaille.
Puis vous tournez souvent à l'extérieur.
À l'extérieur, on fait des extérieurs.
Les locations.
En location, mais tout le monde travaille la pédale dans le fond, là. Pour que tout le monde, on arrive. Tu sais, les monteurs sont 4 monteurs à travailler là-dessus à temps plein. parce que faut que la mission se monte, puis il y a des coupures à faire, puis là Miklos qui fait la musique, puis c'est de l'habillage, puis tout ça. Écoute,
Quel beau trip quand même.
C'est un trip extraordinaire. Écoute, tu sais, moi à tous les jours, je me fais dire merci pour ce que vous faites, vous êtes donc bon, puis on vous croit, puis c'est le fun, puis évidemment, les plus beaux commentaires qu'on a, moi, c'est quand ça vient des vrais policiers qui nous disent ça se peut. Il y a une commandante qui est venue au studio, puis elle m'a dit je pourrais vous envoyer sur le terrain demain matin, tellement que j'y crois des fois que vous feriez une bonne job, tu sais.
Quel beau trip.
Ah non, c'est vraiment extraordinaire. Puis ça s'est arrivé dans un moment de ma carrière pile poil. Tu sais, j'ai été beaucoup associé à de la comédie. Bon, on pense aux Boys Ladies Night, oui. Radio Enfer, Name It, Max Inc. Puis mon plus grand succès, Les Dangereux. Mais
ça arrive des
fois. Ça arrive des fois. C'est une erreur. C'est pas une erreur de parcours. Je veux pas employer ce mot-là. Ça fait partie de la formation.
Et c'est autant de troubles de travailler sur quelque chose qui marche moins que sur quelque chose qui marche beaucoup.
Tu l'as si bien dit tantôt. Mais non, écoute, c'est arrivé un beau moment. C'est un beau rôle dramatique. Et les gens souvent me disent, on te redécouvre, tu sais, parce que bon, j'étais beaucoup associé, comme je te disais tantôt, à la comédie. Mais avec ça, ça m'a permis d'aller jouer dans des zones. Ça m'a sorti de ma zone de confort aussi, parce que moi, j'étais bien là-dedans, le petit gros comique, puis ça allait bien, puis toutes mes affaires marchaient. Mais là, j'ai été challengé, puis Luc me challenge à chaque semaine encore, tu sais. Moi, écraser un enfant, là, je vais toucher du bois, ça m'est jamais arrivé dans la vie, puis j'espère que ça ne m'arrivera pas. Ben mais il faut que tu ailles chercher quelque chose à quelque part pour essayer de ressentir ça, puis de le faire passer à TV.
Mais de te sortir de ta zone de confort, ça me fait penser à Marie-Chantal Perron dans Unité 9.
Tout à fait, exactement.
Marie-Chantal Perron, c'est la comédienne comique par excellence. Ouais, ouais. Tu l'envoies dans Unité 9, où est-ce qu'elle devient une gardienne de prison?
Exactement. Mais c'est le fun.
Beau défi.
Beau défi, parce que... Vas-y, excuse-moi.
Non, mais ce que je me dis là-dedans, c'est vous autres, vous... Quand on vous sort justement de votre zone de confort, c'est bien après coup de dire « Ouf, quel beau moment ». Sauf qu'en même temps, on vous déstabilise pas à peu près.
Oui, mais ça fait partie de la job aussi. Puis tu sais, on n'est jamais content. Je fais beaucoup de comédies. Un comique veut faire du dramatique, puis un gars qui fait juste du dramatique ou une fille qui veut faire du comique. Mais moi, j'ai la chance de faire les deux. Fait que je suis privilégié, tu comprends?
Oui.
Puis... Tu sais, souvent les gens disent « Ah, oh, mais les acteurs, vous pouvez tout jouer. » Moi, je suis tellement pas d'accord avec ça. C'est pas vrai. Des affaires que je serais jamais capable de faire, puis c'est correct aussi, tu sais.
Quoi?
Ben, de faire des grands rôles au théâtre, tu sais, Hamlet, ou des affaires. J'ai pas la capacité de faire ça. Okay. J'ai pas ce talent-là de m'investir, puis de m'arracher trip, puis tout ça. Pour moi, il y a des gens qui sont bien bons là-dedans, tu comprends? Puis je respecte ça. Tu sais, j'écris beaucoup. Moi, je fais de l'écriture avec François Chénier, mon meilleur ami dans la vie. On développe des affaires. Mais j'aurais jamais la prétention d'être un Michel Tremblay ou peu importe qui. Tu sais, des gens qui vivent de ça. Moi, je le fais par la bande parce que j'ai des idées puis tout ça. Moi, ma job, c'est d'être interprète. T'sais.
En même temps, c'est pas facile d'être comédien. Il y a une de mes amies comédiennes qui me disait, elle dit, le nombre de fois où on se fait dire, hey, je devrais faire ça pour comédien, je serais bon là-dedans. Puis elle, sa réponse, c'est systématique, c'est tu serais pas capable. À un moment donné...
Oui, c'est sûr, c'est un métier, là.
Votre rôle aussi, c'est de montrer à quel point c'est simple, sauf que c'est pas simple.
Non, c'est beaucoup de travail en arrière, puis des fois, tu sais, surtout au théâtre, on répète, puis on décortique les personnages, puis la dynamique, puis pourquoi il va là, puis qu'est-ce qu'il fait, puis c'est quoi son but, puis tout ça. À télé aussi, des fois, on a le temps de faire ça, tu sais, puis on travaille, puis tout ça. Mais tu sais, je sais pas, moi, Russell Crowe, qui joue en ce moment une série où il fait le président de Fox News... Ça fait un an et demi qu'il sait qu'il va jouer ça. Fait qu'il a le temps de se préparer. Puis ici, malheureusement, souvent, on t'appelle la veille pour dire, hey, écoute, on a un projet qui commence dans 3 jours. Peux-tu le faire? Parce que c'est comme ça. T'sais? Bon.
Fait que, et on est rendu à faire une série quotidienne de très grande qualité.
Ah non, écoute.
Quand on regarde d'où on est parti, de la Maison des Chênes, même Virginie, on regarde les reprises. Ouais, ouais. On dit, OK, ça fait quand même juste une quinzaine d'années.
Ouais, tout à fait, absolument.
Maintenant, ce qu'on livre, là, c'est des « elle est là » d'une certaine manière.
Oui, oui, il y a une belle évolution qui s'est faite. Puis tu sais, faire de la télé-novellance, là, comme on appelle, là, de ce rythme-là et de cette qualité-là, on est les seuls au monde à faire ça. Tu sais, Fabienne Larouche puis Michel Trudeau, les producteurs, font beaucoup de festivals, puis ils se promènent à travers le monde, puis ils côtoient ces gens-là qui produisent d'autres quotidiens à travers le monde, puis ils disent « comment vous faites ?» Ils ont dit, ben, on le fait.
On le fait.
On le fait, c'est tout, tu sais.
Depuis le début de l'entretien, Michel Charette, tu nommes beaucoup de monde. Et je vois à quel point, puis quand je regardais mes notes, t'es un gars d'équipe.
Ouais.
T'aimes ça, les équipes, toi?
J'ai pas le choix parce que c'est là que je suis bien. Tu sais, j'ai eu des propositions pour faire des one-man shows. J'ai même signé un contrat avec un producteur pour faire un one-man show, tout ça. Puis moi, j'ai fait, mais là, je peux pas faire 300 shows tout seul en tournée. J'ai beau avoir les techniciens, je serais pas capable. J'ai besoin d'échanger avec des camarades tout le temps, que ce soit sur scène, à la télévision, peu importe. je serais pas capable de faire un solo, tu comprends? Fait que moi, c'est important. Je suis fidèle, je travaille avec les mêmes personnes depuis beaucoup d'années. Les shows que je monte au théâtre, c'est toujours... Écoute, mon Sandman, c'est le gars qui faisait le son sur Radio Enfer, qui ça date de 25 ans. Je prends toujours les mêmes personnes au décor, au costume. Ça va bien, je casserai pas une équipe
gagnante. C'est ta cellule.
C'est ma cellule. Puis j'essaie de m'entourer de gens meilleurs que moi, qui vont me challenger puis qui vont m'emmener plus loin. T'sais.
Parce que tu parles de Radio Enfer, mais on regarde Radio Enfer, les Boys, District 31, c'est des trips de gang.
Tout le temps. Tout le temps. Puis je fonctionne bien, puis j'aime ça. Je suis bien entouré. Tu sais, j'aime ça quand il y a du monde. Je suis pas un solitaire. J'ai besoin de mes moments de solitude comme tout le monde, c'est sûr. Mais dans le travail, je ne suis pas un solitaire. Je suis pas capable. J'aime pas ça. Je suis pas bien. Je produis pas. J'ai l'impression que j'avance pas. Fait que c'est pour ça que j'écris toujours en compagnie de François Chénier, qui me challenge. Moi aussi, je le challenge. Fait que j'ai pas le choix. On dirait que quand il y a du monde avec moi, j'ai pas le choix de travailler, tu comprends? Parce que je pourrais être bien paresseux, mais quand ils sont là, ça me donne le coup de pied au derrière pour que je travaille puis que je fonctionne.
Là. Et quand la complicité professionnelle, quand la complicité dépasse le travail, là, ça vient des vrais amis.
Mm-hmm.
Tu parlais de ton ami Vincent Guillaume
ouais,
tantôt.
Ouais. C'est devenu... Je connaissais ni Dave ni d'Adam avant District 31. Ça a commencé les deux, trois premières journées de tournage avec lui. J'ai fait, OK, de un, c'est facile.
Ouais.
De deux, il est pas compliqué. Il est très bon. Il est professionnel, il est drôle, puis il est juste. C'est une espèce de complicité qui s'est installée.
Tu l'aurais rencontré à l'école, vous auriez été des chums de cours d'école.
Probablement. Même chose avec Sébastien et avec oui. Gildard. Tu sais, la chimie des quatre boys ensemble est très, très, très forte sur le plateau. On a, écoute, tu sais, oui, on c'est une émission sérieuse, pis tout ça, mais on a des fous rires monumentales, Sylvain, là, c'est hallucinant. Pis ça fait du bien, là. On rit, puis l'équipe technique embarque, puis rit. Même si on sait qu'on est en retard, on fait, c'est pas grave, faut vivre ce moment-là, ça nous fait du bien, tu comprends? Fait qu'il y a une complicité extraordinaire, puis même l'équipe technique, c'est la même gang qui fait la quotidienne depuis une dizaine d'années. C'est oui. les mêmes gars, même filles avec qui je travaillais sur 30 vies. Fait qu'il y a comme une symbiose, puis une complicité qui s'est installée, qui est formidable.
Je commence à te croire quand tu me dis que c'est une belle année de ta vie.
Ah non, vraiment. Écoute, c'est ça, comme je te disais,
difficile d'en demander plus.
Parlant, mais mentalement et personnellement aussi, c'est une super belle année.
Difficile d'en demander plus, mais en même temps, difficile d'en faire plus.
Oui, je suis quand même assez à côté, mais écoute, j'aime ça. J'aime profondément mon travail. Je suis privilégié, je le dirai jamais assez.
Mm-hmm.
Tu sais, c'est sûr que sur District, des fois, on est fatigué, puis on est brûlé, puis tout ça, mais... J'ai toujours le réflexe de dire, hey man, il y en a 500 qui veulent ta job. Là. Il y en a 500 qui aimeraient être à ta place, qui se lèveraient à 5h15 le matin ou à 4h30. Il y aurait le sourire fendu jusqu'aux oreilles parce qu'ils travailleraient puis ils feraient ce qu'ils aiment.
Oui.
Fait que je suis un privilégié. Je suis chanceux dans la vie, moi-là. Je travaille fort puis je sais que j'ai un certain talent puis que je suis préparé puis que je suis de bonne compagnie quand je travaille puis tout ça. Mais il y a une grosse partie de chance aussi là-dedans.
Oui.
Et je suis. Il y a une bonne étoile à quelque part qui me fait que je continue dans ce métier-là puis que je gagne bien ma vie avec ça. Là.
Un des grands moments de la télé en 2019 ici, ça a été le malheureux accident de Bruno.
Mm-hmm.
C'était à la fin de la saison de District 31.
C'était le punch de l'année 3.
On s'est laissé sur ces trois points de suspension. Se préparer à une scène comme ça, Michel Charette, comment on fait?
Une scène muette, évidemment. Ça a été super bien traité par la réalisatrice Catherine Thérien parce que moi... De un, je savais pas ce qui s'était passé. À Noël, Michel Trudeau me dit « La fin de la série te concerne. » Je dis « OK, mais je te le dis pas, je vais laisser à Luc. »
Là, tu te demandes si tu vas pas te faire tuer.
Là, je dis « Là, c'est quoi, je meurs-tu? » Il dit « Non, tu meurs pas. » Fait que là, il y a tout, pendant ce temps-là, la péripétie avec Yannick Dubeau,
oui.
La cave, les otages, blablabla, tout le monde, là, ça commence à spéculer parce que sur le plateau, là, les gens savent que moi, c'est mon personnage qui va être concerné. Tu vas finir dans la cave à Dubeau, tu vas finir ici, c'est toi qui vas le poigner, tu vas le tuer, il va te tirer, blablabla. Là, on est à 3 semaines de tourner cette finale-là. Je sais toujours pas comment ça va finir. À un moment donné, là, je suis comme plus capable, j'appelle Luc moi-même, puis je l'appelle. Puis là, Luc, Michel, là, il se marie, puis je fais, qu'est-ce qu'il a dit, tu vas passer un été de marde? Pourquoi? Il dit, tu vas vraiment passer un été de marde. Genre, j'ai dit, là, tu veux savoir comment ça finit? Ben, j'ai dit, ça a l'air que ça me concerne. Il dit, oui. Il dit, vous allez avoir du beau dans la mire. Vous allez partir après une poursuite. Tu vas frapper un enfant. Silence radio, je fais, tu me niaises. Il rit. Tu vas passer un été de marde. Les gens vont dire, tu l'as tué. J'ai dit, puis, il dit, tu l'as tué. Je fais, mais t'es un malade mental. Il dit, les gens vont nous attendre à gauche. On lui dit, on va tourner à droite. Il dit, ça va être écœurant. Mais il dit, je vais récupérer ça comment? Il dit, ça, j'en ai aucune idée. Ah. Mais il dit, je connais le punch de la fin, mais il dit, je sais pas comment, je vais me sortir de ça. Parfait. Fait que là, à un moment donné, les textes rentrent, puis là, on voit cette scène-là. Puis écoute, il reste 5 secondes à l'épisode. Tu fais, ben là, il n'y a rien de majeur qui va arriver. Bang, je la frappe. T'sais. Comment on a travaillé ça? Catherine Therrien, la réalisatrice de cet épisode-là, a tellement de gestion à faire parce que là, c'est toutes les poursuites de police, puis ci, puis ça, puis bon. Fait qu'elle me dit, on veut 3-4 fins différentes. Dans le sens qu'il y en a une où tu t'effondres, il y en a une autre où tu cries, il y en a une autre où tu t'écroules à terre, il y en a une autre où tu restes juste abasourdi. Puis elle dit, au montage, on va essayer de trouver quelque chose. T'sais. Cette journée-là, elle, elle n'a pas le temps de me diriger, et c'est correct, on comprend tout ça. Cette journée-là, j'ai le bonheur que mon chum Vincent Guillaume est là parce qu'on tourne des poursuites. Alors, je le pogne d'un coin et je dis, Vincent, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Il dit, pourquoi? J'ai dit, je veux que tu regardes le moniteur parce que je veux que tu me diriges, parce que je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, on a 4 versions à tourner, je ne veux pas me planter, c'est la fin. T'sais. Il dit, parfait, je suis avec toi. Mais lui, il ne veut pas non plus contrecarrer les plans de la réalisatrice. Oui. Fait que Catherine est là, il sait, puis Catherine a dit, moi, j'ai pas de problème avec ça. T'sais, aide-moi là, là-dedans. Pour qu'on, t'sais. Fait que, quand je sors du char, je vois la petite, je vois la botte, puis là, je fais le cri étouffé. Mais le cri étouffé qu'on voit à l'écran, moi, je le fais live. Là, ah, je crie fort, puis tout. T'sais. Vincent, il vient me voir, il fait, ça, c'était à la répétition, il vient me voir, il fait, Michel, ça marche, tout ça. Il dit, fais juste quand tu sors, fais juste attention un petit peu, fais juste nous faire passer dans tes yeux qu'il fait, non, c'est pas vrai, non. Il dit, il manque juste cette petite affaire-là. T'sais. Je dis, parfait, merci. Mais il dit, le reste, ça marche, puis tout ça. Puis il dit, prends ton temps pour le cri. Fais-nous comprendre ce que tu vois par terre, puis tout ça. T'sais, j'ai dit, OK. Je suis sorti de la voiture, j'avais les notes à VGO dans la tête, Catherine, ce qu'elle m'avait dit aussi, tout ça, on l'a fait une fois.
Une fois.
Bonsoir, une take. Puis elle me dit...
Aurais-tu été capable de la refaire?
Pense pas.
Non.
Parce que c'était comme magique, tout ça. Vincent était là, je le voyais, je checkais. Puis j'ai senti... Tu sais quand l'équipe technique réagit, puis tu sais, puis j'ai eu comme un silence après, j'ai fait, OK, je pense qu'on a quelque chose, tu sais. Mais moi, je savais pas qu'elle était pour éteindre le cri, que la voix était pour être éteinte. C'est vraiment au montage où elle a fait du ralenti, puis quand je crie, le cri est silencieux, je trouvais ça encore plus fort, puis tout ça. Puis ça finit comme ça, moi j'ai fait, OK, je pense que là, on tient quelque chose, tu sais.
Le saut que tout le monde a fait à la maison en regardant l'épisode, tout le monde a réagi. Il y avait eu une vidéo.
Oui, c'est ça. Ça a été demandé par les productions. Ouais.
C'était saisissant. Effectivement, une chance qu'il n'y a pas eu de son après. Ou que le cri, on ne l'a pas entendu. On l'a poussé.
Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Parce que moi aussi, j'ai regardé les vidéos après, puis comment les gens réagissaient, puis tout ça. Puis tu sais, ça aurait pu arriver à n'importe qui d'autre. On aurait eu de la peine, mais que ça arrive à lui, avec ce qu'il a vécu. Il a perdu ses enfants, puis tout. Puis tout le long de l'année, Luc a été brillant parce qu'il amenait le fait que, OK, là, moi, les enfants, je suis plus capable. Moi, les enquêtes d'enfants, je suis plus capable. Subtilement, on rentrait ça dans la tête du monde, tu comprends? Puis à un moment donné, classe, le punch l'arrive. Écoute, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Ça peut pas accoter ça, là, tu comprends?
Mais tu sais, Michel, que cette scène-là a probablement été plus efficace que toutes les publicités dissuasives sur l'utilisation
du cellulaire. Tout à fait raison. Exact, c'est un bon point. Tout à fait, belle observation, c'est vrai.
C'est bien intéressant, cet entretien-là avec Michel Charrette. On va aller du côté de la pause.
Parfait.
Ça va pas durer longtemps. Quelques minutes. Puis après, on recommence.
Super.
On reprend tout ça avec Michel Charrette. C'est dans le cadre de la série Entre nous.